un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lors de cette journée d'études, sciences et médecine en Asie, Jacques Joanna, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, présenta une communication sur le thème « Médecine grecque et médecine indienne dans l'œuvre de Jean Filioza ». Retrouvons-le en grande salle des séances le 17 novembre 2006.
Mon propos sera de souligner, en tant que spécialiste de la médecine grecque et non de la médecine indienne, l'originalité de l'apport de Jean Filioza dans son étude des parallèles entre médecine indienne et médecine grecque. Son œuvre la plus connue sur le sujet est, on l'a rappelé ce matin, sa thèse de doctorat ès lettres publiée en 1949. Elle est intitulée « La doctrine classique de la médecine indienne ». Mais le sous-titre « Ses origines et ses parallèles grecs » est significatif de la volonté de Jean Filioza de ne pas s'en tenir à une étude isolée de la médecine indienne, mais d'établir des liens entre médecine indienne et médecine grecque. En plus de sa thèse, Jean Filioza a écrit plusieurs articles et un chapitre d'histoire des sciences où le parallélisme entre les deux médecines est abordé. Je mentionnerai notamment deux contributions antérieures à son maître ouvrage et deux qui lui sont postérieures. Le premier article, paru dès 1933, je crois que c'est au début de sa carrière de publication, puisque sa première publication est de 1931, dans la revue Hippocrate. Donc ce premier article s'intitule « La théorie grecque des humeurs et la médecine indienne ». Après un intervalle de plus de 10 ans, en 1947, paraît dans le journal de psychologie une comparaison sur un autre sujet, la conception du sommeil et des rêves selon les médecins indiens et les physiologues grecs. Je signale que ces deux articles ne sont pas répertoriés dans la bibliographie de référence de l'Antiquité classique gréco-latine, l'année philologique, ce qui est le signe regrettable et remarquable du cloisonnement des disciplines contre lequel Jean Filioza a toujours réagi. En revanche, le troisième article est bien recensé dans notre année philologique. Il est postérieur à la thèse et date de 1952. Après les humeurs, après le sommeil et les rêves, la comparaison porte cette fois sur le pronostic. C'est l'article intitulé « Pronostics médicaux acadiens, grecs et indiens » paru dans le journal asiatique. Postérieur à la thèse est également le chapitre lumineux sur la science indienne antique que Jean Filioza a rédigé pour le volume collectif dirigé par René Taton sur la science antique et médiévale, dont la première édition date de 1957, avec une réédition en 1966. Je me suis basé fondé sur cette réédition de 1966 et j'ai appris aujourd'hui, dans les communications précédentes, qu'il conviendrait de faire, j'allais dire, en philologue, une collation des deux éditions pour voir les changements éventuels qui ont pu se produire entre la première édition et la réédition. Nous en avons eu l'exemple ce matin à propos de l'astrologie. À l'intérieur de cette production de Jean Filioza, où est abordé le problème des relations entre médecine indienne et médecine grecque, il convient de respecter la chronologie. Car il me semble que par-delà la continuité, une évolution se dessine précisément dans la conception des relations entre ces deux médecines. la continuité dans son œuvre. C'est la quête passionnée du savant à partir des textes sanscrits qui sont traduits et commentés, voire édités dans sa thèse, pour faire prendre conscience de l'importance de la médecine indienne et plus généralement de la science indienne, non seulement à l'indianiste, trop enclin à privilégier les philosophies, mais aussi à l'historien des sciences, pour que la médecine indienne trouve la juste place qui doit lui revenir dans l'histoire de la médecine. Et c'est là que se pose la question des rapports entre la médecine grecque et la médecine indienne. Il faut bien prendre conscience au préalable que cette relation, vue du côté de l'indianiste, n'était pas accessoire, mais qu'elle était au cœur même du problème de l'évaluation de la médecine indienne lorsqu'elle fut révélée en Europe. Jean Filioza a bien exposé le problème au début du premier article que j'ai mentionné, celui de 1933. Je le cite. « L'histoire de la médecine, qui nous intéresse spécialement ici, a beaucoup souffert des préjugés du passé. La médecine indienne fut révélée au XIXe siècle, dans le temps où l'indianisme était encore à la mode. On soutint d'abord qu'elle était d'une perfection extraordinaire et d'une antiquité prodigieuse. On suivait ainsi l'opinion des hindous, opinion qui est encore courante chez eux. La réaction ne tarda point. La première question qui se posait était celle de son antériorité ou de sa postériorité par rapport à la médecine grecque. Chacun l'a résolue au gré de ses préventions. En Europe, le parti helléniste l'emporta facilement. On avait cru reconnaître des analogies très précises entre les doctrines hippocratiques et les doctrines hindoues. On en conclut que l'Inde avait plagié Hippocrate et on cessa de s'occuper de la plagiaire. Par ces lignes, on voit que la question des relations entre médecine grecque et médecine indienne était historiquement un point sensible, au départ inséparable du jugement que l'on portait sur la médecine indienne. Tout en prônant une connaissance objective de la médecine indienne, Jean Filioza savait qu'il y avait des préjugés à vaincre. Et pour vaincre, je reprends ces mots, le monopole du prestige de la Grèce, il s'est efforcé de mieux faire connaître la médecine indienne avant de la comparer à la médecine grecque. Cela étant dit, il me semble qu'il y a eu plusieurs étapes dans les solutions que Jean Filioza a apportées pour rendre compte de cette relation, et c'est ce que je voudrais exposer aujourd'hui. La première étape est celle qui correspond à son premier article de 1933 sur la comparaison entre la théorie humorale dans la médecine indienne et dans la médecine grecque. Pour exposer la théorie indienne, il donne une longue traduction de Charaka 1, livre 12, passage théorique éminemment célèbre sur la puissance du vent dans l'univers ou dans l'homme, défendu par un premier sage, du feu et de la bile, défendu par un deuxième sage, de l'eau et du phlegme, défendu par un troisième, avant que la synthèse des trois doshas, c'est-à-dire des trois principes, soit faite par Atreya. Commentant ce texte fondamental, Jean Filioza évoque les rapprochements possibles avec les anciennes cosmologies grecques pour les éléments du monde et avec la théorie hippocratique des quatre humeurs pour les éléments de l'homme. Mais s'il le fait, c'est pour écarter l'idée que ces théories grecques aient pu avoir de l'influence sur la médecine indienne. Voici ce qu'il dit à propos des physiologues ioniens. Quand on voit que des sages indiens soutenaient les uns que l'élément primordial de l'activité du corps et du monde était l'air, les autres qu'il était le feu ou encore l'eau, la mémoire rappelle invinciblement, le mot invinciblement sera repris dans sa thèse par inévitablement, les noms d'Anaximène, d'Héraclite et de Thalès. Mais la suite est importante. Il serait singulièrement imprudent de faire, sans autre preuve, des suppositions d'emprunt. Si même les analogies étaient plus réelles qu'elles ne le semblent à un examen superficiel, il faudrait remarquer combien il est naturel que des chercheurs indépendants, voulant résoudre les mêmes énigmes avec des données de l'expérience la plus vulgaire qui est sensiblement la même pour tous, arrivent à se rencontrer dans leurs conclusions. Et voici comment il conclut la comparaison du système humoral entre médecine indienne et médecine hippocratique. Comment reconnaîtra-t-on dans la théorie des doshas indiens le sang, la bile, le phlegme et la trabile des Grecs? Sans doute, les doctrines auraient pu changer dans leur voyage vers l'Inde, assez pour s'y retrouver sous la forme qu'elles ont dans l'Ayurveda. Mais il faudrait à tout le moins que cette forme dans l'Ayurveda parût étrangère aux conceptions indiennes. Il en va tout autrement en réalité. Cela suffit à montrer par l'exemple d'une théorie fondamentale, donc la théorie des humeurs, que la médecine indienne n'est pas un simple reflet de la médecine grecque et ne mérite de ce fait aucun discrédit. La position première de Jean Filioza a donc été de montrer l'indépendance de la médecine indienne par rapport à la médecine grecque pour réfuter ce qu'il appelait dans son article le parti helléniste. Une seconde étape se situe une dizaine d'années plus tard. Il apparaît dans le deuxième article de 1947, comparant les théories sur le sommeil et les rêves selon les médecins indiens et selon les médecins hippocratiques ou les philosophes grecs. Cette fois, Jean Filioza insiste beaucoup plus sur les ressemblances que précédemment. Il déclare en effet: le problème psychophysiologique du sommeil et des rêves est envisagé avec le même esprit et résolu semblablement sur bien des points chez les uns et chez les autres, c'est-à-dire dans la médecine indienne et dans la médecine grecque. Et voici comment il termine son article. Reste à apprécier le degré d'originalité des théories rationnelles grecques et indiennes, les unes par rapport aux autres. On a soutenu le plus souvent jusqu'aujourd'hui que l'originalité était tout entière du côté de la Grèce, parce que l'astrologie indienne a fait de larges emprunts à l'astrologie alexandrine. On doit maintenant renoncer à cette remarque. Les théories psychophysiologiques indiennes que nous trouvons dans les manuels postérieurs à l'essor de la science hellénique ont en réalité leurs antécédents dans les textes brahmaniques qui nous en montrent les éléments préformés et qui sont antérieurs à l'époque des anciens physiologues d'Ionie et d'Italie. Il ne s'ensuit pas que ceux-ci aient pu s'inspirer des spéculations brahmaniques, mais l'empire achéménide a longtemps, à leur époque précisément, étendu sa domination à la fois sur les villes grecques d'Ionie et sur le bassin de l'Indus. Il a attiré à la cour de Suse plusieurs médecins grecs, dont un au moins, Ctésias, et c'est Ctésias de Cnide, s'est informé des choses de l'Inde. Il a donc fourni l'occasion historique d'échanges d'idées qui expliqueraient mieux que le hasard la similitude constatée entre les théories psychophysiologiques des Grecs et celles des Indiens. On voit que le souci est toujours le même, celui de montrer l'indépendance de la médecine indienne par rapport à la science grecque, parce que les traités médicaux indiens de l'ère chrétienne ont hérité d'éléments anciens déjà préformés dans les textes brahmaniques. Mais ce qui est précisé maintenant, c'est que ces éléments anciens sont antérieurs aux anciens médecins et physiologues grecs. Toutefois, cela ne conduit pas encore Jean Filioza à envisager que les penseurs grecs aient pu être inspirés par les spéculations brahmaniques. Et surtout, ce qui est nouveau par rapport à l'article de 1933, c'est que le principe d'explication des analogies n'est plus le même. Au principe de l'indépendance de découvertes analogues dans des situations données, principe que l'on pourrait appeler celui de la polygénèse, il préfère maintenant celui des échanges d'idées historiquement possibles dans le cadre de l'Empire achéménide. Voilà donc la seconde étape représenté par un article paru en 1947, deux ans avant sa thèse. Abordons maintenant la troisième étape, en partant du point d'aboutissement, la présentation dix ans plus tard, en 1957, de la médecine indienne dans le volume sur la science antique et médiévale, dirigé par René Tatton, qui présente de façon synthétique et ramassée les résultats de la thèse. Jean Filioza consacre une page très dense à la comparaison de la médecine indienne avec la médecine grecque, c'est la page 177. Il souligne les parallèles frappants, suivant sa propre expression, entre la pathologie de la médecine indienne et celle de la médecine grecque. Il en donne deux exemples. D'abord, dans la médecine hippocratique, le traité des vents, Peri Fusoun. Voici ce qu'il en dit. Le traité des vents de la collection hippocratique donne une explication générale de l'univers et des maladies qui concorde avec celle qu'atteste la tradition d'Atreya et repose sur les vieilles spéculations védiques sur les vents et les souffles organiques. Je dirais entre parenthèses que ce texte-là était le texte qu'il avait traduit en 1933 dans son premier article, mais à ce moment-là, il connaissait certainement moins bien la médecine grecque et a fait la comparaison des humeurs dans la médecine indienne et des quatre humeurs dans la médecine grecque, mais n'apparaissait pas encore cette comparaison avec le traité des vents. Il y a donc non seulement approfondissement dans la connaissance de la médecine indienne, mais également approfondissement aussi de la connaissance de la médecine grecque pour les comparaisons. Le second exemple est la pathologie du Timée de Platon. Voici le début de ce qu'il en dit. En outre, une théorie générale des maladies donnée par Platon dans le Timée correspond entièrement à celle du Tridosha, reconnaissant les mêmes trois éléments pneumatiques, ignés et aqueux, représentés pareillement par le souffle, la bile et la pituite. C'était exactement le texte fondamental déjà cité en 1933. Mais on mesure le chemin parcouru par Jean Filioza depuis son article de 1933, où il ne voyait pas de parallèle entre la théorie indienne des trois doshas et la théorie hippocratique des quatre humeurs. Il retrouve maintenant cette théorie dans le Timée de Platon. Après avoir fait ces rapprochements, Jean Filioza aborde le problème de l'explication des similitudes, et ça, c'est très important. Les textes classiques de l'école indienne sont plus récents que le Timée, mais les éléments de leurs exposés sont plus anciens que lui, et c'est là qu'on comprend véritablement la valeur du sous-titre de sa thèse, Origine et parallèle avec et parallèle grec. On ne peut donc songer à un emprunt de l'Inde au monde hellénique, comme il s'en est produit dans d'autres domaines. En revanche, une influence indienne est possible sur la collection hippocratique et sur la doctrine du Timée, cette dernière étant sans source indiquée et se trouvant plus éloignée des autres doctrines grecques que de la théorie indienne dominante. La communication des idées indiennes à certains milieux médicaux grecs de l'époque de la collection hippocratique et de Platon est attestée par la mention dans le traité des maladies des femmes, c'est le traité hippocratique de la maladie des femmes, d'un médicament indien, le poivre, et de recettes médicales indiennes. Elle était aisée à travers l'Empire perse, régissant à la fois des pays indiens et des pays grecs par des voies de communication commerciale dont l'itinéraire nous est connu par Strabon et par Pline. On voit que Jean Filioza reprend le type d'explication des ressemblances qu'il avait déjà noté dans son second article de 1947, celui des échanges historiquement possibles entre la Grèce et l'Inde avant Alexandre par l'intermédiaire de l'Empire perse. Mais ce qui est évidemment nouveau et justifie l'appellation de troisième étape, c'est l'affirmation de la possibilité d'une influence de la médecine indienne sur la collection hippocratique et sur la doctrine du Timée de Platon. En revenant maintenant un peu en arrière dans sa thèse de 1949, on observera qu'il avait été plus nuancé dans les rapprochements qu'il avait faits dans son excellent chapitre 7, entre le pneumatisme indien et le traité hippocratique des vents. Après avoir remarqué des similitudes, mais aussi constaté des différences, il déclarait « Le problème que posent les concordances entre ce traité et les ouvrages sanscrits n'est pas un problème d'emprunt de texte, mais de rapport culturel. » Dans ce chapitre, il ne parle donc pas encore d'influence possible de la médecine indienne sur la médecine grecque. Toutefois, dans le dernier chapitre de sa thèse, intitulé « Les communications de la Grèce et de l'Inde avant Alexandre », après deux pages tout à fait remarquables sur la présence du médicament indien, c'est-à-dire du poivre long, dans trois ou quatre passages des traités gynécologiques de la collection hippocratique, il conclut page 213. Il faut peser tous les mots. Il n'en reste pas moins qu'une certitude d'influence indienne sur les traités des maladies des femmes et de la nature de la femme entraîne la possibilité d'une pareille influence sur d'autres traités comme celui des vents. Le mot « influence » est introduit ici à propos du traité des vents au détour d'une phrase. C'est ce mot qui sera repris en 1957 et occupera finalement une place centrale dans les rapports entre médecine grecque et médecine indienne. Cependant, Jean Filioza conservera jusqu'au bout la réserve du grand savant qu'il était en parlant non pas d'influence tout court, mais de possibilité d'influence de la médecine indienne sur la médecine grecque.
Vous venez d'entendre Jacques Joannat, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de sa communication consacrée à « Médecine grecque et médecine indienne » dans l'œuvre de Jean Filioza, dans le cadre du colloque organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 17 novembre 2006, sur le thème « Science et médecine en Asie ».